Bonsoir à toutes et à tous, c'est vendredi, c'est le club des idées du grain. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Je ne pense pas que les djihadistes soient des abrutis ou des fous, et je respecte des gens prêts à mourir pour ce en quoi ils croient, ce dont nous ne sommes plus capables. Pour avoir tenu de tels propos lors d'une interview au magazine Closer, Éric Zemmour pourrait avoir à répondre d'apologie du terrorisme. Une association de familles de victimes des attentats du 13 novembre a saisi le parquet de Paris. Une enquête est ouverte, le journaliste encourt une peine maximale de 5 ans de prison. Avant-hier, à l'Assemblée nationale, les députés examinaient en commission une proposition de loi visant à pénaliser la prédication subversive. Un texte défendu par la candidate à la primaire de la droite, Nathalie Kosciusko-Morizet, dans le cadre de son projet d'interdiction du salafisme, mais un texte que ses collègues n'ont pas retenu au motif qu'une telle loi pourrait porter des atteintes disproportionnées à la liberté d'expression. Alors cette double actualité illustre, sans la résumer loin de là, la difficulté à borner ce qui peut être dit et ce qui ne peut pas l'être. Dans un contexte aussi particulier que celui de la menace terroriste, alors la lutte contre le terrorisme nuit-elle à la liberté d'expression? C'est le thème de notre discussion aujourd'hui en compagnie de Ludivine Bontigny. Bonsoir.
Bonsoir.
Historienne, maître de conférences en histoire contemporaine à l'université de Rouen. Philippe Manière, bonsoir.
Bonsoir.
Vous dirigez le cabinet de conseil en stratégie Footprint Consultant. Et Sylvain Kahn, bonsoir.
Bonsoir.
Historien et géographe, professeur à Sciences Po.
La liberté d'expression est un droit, le droit d'exprimer librement ce que l'on pense. Ce droit est une liberté fondamentale, proclamée dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
Ce matin, partout en France, Charlie Hebdo est en vente libre, à la une un dessin de Mahomet. Dans le même temps, Dieudonné est placé en garde à vue pour ce message sur les réseaux sociaux « Je me sens Charlie Koulibaly ».
Le 7 janvier 2015, ce célèbre journal, nécessaire à la démocratie, a été victime d'une attaque terroriste qui a fait 12 morts et des blessés. Cet attentat est un choc, car en tuant les journalistes de Charlie Hebdo, les terroristes se sont attaqués au symbole de la liberté d'expression en France.
Ben, on était entrés en classe et le maître il nous a parlé sur les 12 morts qu'il y avait. Il nous avait dit « Est-ce que vous êtes pour Charlie ou vous êtes contre ?» Et moi, j'avais dit que j'étais contre Charlie. Et le maître il m'avait envoyé chez le directeur.
Tout citoyen peut parler, écrire, imprimer librement. Une liberté aujourd'hui encadrée par la loi qui fixe des limites, la diffamation, l'injure, la provocation à la haine qui comprend le racisme et l'antisémitisme, ou encore l'apologie du terrorisme. Le droit français distingue l'expression des idées et la protection des personnes.
Les gens qui meurent pour leur foi, en soi, on devrait plutôt être admiratif plutôt que méprisant.
Voilà, comme chaque vendredi, nous démarrons cette émission avec un montage sonore signé Jean-Christophe Francis, montage dans lequel on vient d'entendre, c'était le tout dernier son, Éric Zemmour. On va avoir l'occasion de revenir sur ce qu'il disait. Puis un jeune garçon qui avait été entendu chez le proviseur, puis ensuite au commissariat, parce que il avait expliqué que lui ne sentait pas Charlie, qui comprenait les terroristes. Un jeune garçon qui avait 8 ans, c'était fin janvier 2015. On va donc évoquer toutes ces questions avec vous trois, mais peut-être faut-il d'abord garder un certain sens de la hiérarchie, Philippe Manière, et plutôt, avant de se demander en quoi la lutte contre le terrorisme peut nuire à la liberté d'expression, il faut d'abord dire que le terrorisme nuit à la liberté d'expression, et c'est bien d'ailleurs la façon dont avaient été interprétés les attentats contre Charlie Hebdo en janvier 2015.
Évidemment, je crois qu'il faut commencer par là. Le terrorisme, c'est la principale menace. Évidemment, il faudra parler ensuite des conséquences fâcheuses que la lutte contre le terrorisme peut avoir sur la liberté d'expression, mais enfin, faut pas oublier que ce débat, on l'a parce qu'il y a un fait générateur, et que le fait générateur, ce sont des attentats qui étaient très explicitement dirigés contre l'expression d'opinion qui déplaisait aux auteurs des attentats. Donc, pour dire les choses de manière plus triviale, vous voyez aujourd'hui un nombre de candidats caricaturistes qui veulent caricaturer le prophète un peu moins important qu'avant, ce qu'on comprend tout à fait. Enfin, je veux dire, très clairement, il y a des choses qu'on sait maintenant qu'on ne peut faire qu'au prix d'avoir, si ce n'est une fatwa ou une menace d'assassinat, en tout cas une réprobation assez large et des ennuis tout à fait considérables sur les réseaux sociaux. Donc la première conséquence de terrorisme, c'est le fait que beaucoup de gens se sentent empêchés de dire ce qu'ils aimeraient dire, Et la première limite à la liberté d'expression, c'est évidemment la menace terroriste. Alors, encore une fois, ça n'empêche pas qu'il y ait aussi des problèmes attachés à la lutte contre le terrorisme. Enfin, faut pas oublier de signaler, vous avez raison de le faire, cette première partie de notre sujet.
Une crainte directe, voire une forme d'autocensure liée à cette menace terroriste, Ludivine Bantigny, est-ce que vous le constatez également? C'est-à-dire, est-ce que vous voyez, ou vous voyez moins peut-être justement d'expression, de blasphème, par exemple, par rapport à la religion aujourd'hui, parce que certains hésiteraient, on peut d'ailleurs peut-être les comprendre, parce qu'ils ne voudraient pas subir justement, parce qu'on notamment subit les dessinateurs de Charlie Hebdo.
Moi, je pense que c'est en effet très important de rappeler cette forte évidence que la liberté d'expression a été non seulement menacée, mais endeuillée, assassinée au moment des attentats de janvier. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que, en ce qui concerne par exemple Charlie Hebdo, ça n'a pas empêché de continuer à mettre l'accent sur une population qui est quand même souvent stigmatisée à sa une ou dans ses colonnes, à savoir les musulmans.
Voilà. C'est un journal que vous lisez, que vous lisiez avant, que vous continuez à lire.
Comme beaucoup, je pense, de ces lectrices et lecteurs, j'aimais vraiment beaucoup dans les années, enfin pour ce qui concerne le Charlie des années 70. Moi, j'étais pas encore lectrice à ce moment-là, mais j'ai eu l'occasion de lire ensuite de près cette période-là, cette grande période, à mon avis, et il y a eu quand même un retournement assez net. Mais le dire déjà, c'est déjà être suspecté, hein, quand on disait. Mais bien sûr, cet attentat est absolument odieux, monstrueux, et nous ne pouvons qu'être face à cette émotion écrasante. Et en même temps, de dire « je ne suis pas Charlie », c'était déjà être suspecté. Moi, pour ma part, j'avais co-signé un texte disant que je ne me sentais pas Charlie pour autant, et que je ne me reconnaissais pas du tout, non pas dans les manifestantes et les manifestants du 11 janvier, mais dans la récupération et l'instrumentalisation politique qui en avait été faite, et notamment cette assignation à manifester pour la liberté d'expression, alors même que, par exemple de la part du Premier ministre Manuel Valls, alors même que justement cette liberté d'expression a été d'emblée entravée à l'occasion de l'après 7 janvier.
C'est-à-dire que pour vous, il y a une forme d'obligation à choisir son camp, il y a une menace terroriste et on ne peut pas, comment dire, relativiser cette menace, ou en tout cas la mettre en question, essayer de la comprendre, par exemple.
La comprendre.
Que Manuel Valls avait dit, comprendre, c'est déjà commencer c'est presque une forme d'excuse, quoi.
Oui, ce qui est assez terrible, justement, dans ce débat, c'est que des personnalités au plus haut sommet de l'État, hein, parce qu'il ne s'agit pas de propos assez banals, hein, au plus haut sommet de l'État, mettent en question, justement, ce qu'on pourrait considérer comme non seulement un délit d'opinion, mais même un délit de réflexion. C'est-à-dire que d'un côté, on a eu en effet Manuel Valls, qui a asséné que...
Expliquer, c'est déjà vouloir un peu excuser.
Voilà. Excuser. Donc, on a été quand même très nombreuses et nombreux à réagir à ce propos, qui en fait n'était pas seulement porté, non pas seulement sur des sociologues, des sciences sociales, et voilà, qui essaieraient de réfléchir à ces questions, mais de manière générale, c'est quand même une atteinte, justement, dans une certaine mesure, à la démocratie. Il faut se rappeler quand même également que le 14 janvier 2015, donc quelques jours après les attentats, Najat Vallaud-Belkacem, en tant que ministre de l'Éducation nationale, avait dit, à propos des questionnements des élèves, notamment autour de la minute de silence, notamment autour de la liberté d'expression, que ces questions étaient insupportables et qu'il fallait justement rechercher les élèves en question, les dénoncer. Il y a eu plusieurs jeunes, des mineurs, qui ont été déférés menottes au poignet devant des juges parce qu'ils avaient dit « je ne suis pas Charlie » ou parce qu'ils avaient d'ailleurs utilisé les méthodes même de Charlie pour s'interroger sur la liberté d'expression.
On va revenir justement sur ce qu'a sans doute été un excès d'interprétation de ce que peut être en particulier l'apologie du terrorisme, puisque c'était aussi au nom de cette apologie du terrorisme qu'il y a eu de nombreuses interpellations qui continuent d'ailleurs aujourd'hui. Mais Sylvain Kahn, comment on vous a pas encore entendu, et notamment sur cette nécessaire hiérarchie, j'ai envie de dire, sur l'impact du terrorisme sur la liberté d'expression avant de questionner la lutte contre le terrorisme.
Bien sûr, mais juste, si vous le voulez bien, Hervé, je voudrais juste réagir à deux choses, une que vous venez de dire et une qui a été dite par Ludivine Bantigny. Moi, j'interpréterai pas, la manière dont ont été mis sous pression, les gens qui ne se sentaient pas Charlie dans les semaines qui ont suivi les attentats de janvier, comme une dénonciation, enfin comme une, déjà une mise en œuvre de la lutte contre l'apologie du terrorisme. Alors là, je dois confesser, si j'ose employer ce verbe, que je ne me rappelle pas du discours de Najat Vallaud-Belkacem, par exemple. Mais bon, ça me surprend, Ludivine, ce que vous dites, qu'elle avait dit « il faut dénoncer les élèves qui... » Bon, moi, j'interpréterais plutôt ça, à ce moment-là, non pas comme quelque chose qui a été délivré, on va dire, un peu sur un plan juridique ou judiciaire, mais on était dans quelque chose qui, moi, m'a fait penser, alors vous allez peut-être dire que j'ai fumé la moquette, mais à ce type de rassemblement républicain qu'on a pu connaître en particulier à tel ou tel moment de la Révolution française, quand il s'agissait de faire que la nation fasse corps et que des gens qui, à tort ou à raison, apparaissaient comme des corps étrangers à la nation, du coup, étaient dénoncés, mais pas, encore une fois, pour des raisons X, Y ou Z, mais juste parce que si à un moment d'unité nationale, entre guillemets, ou de grand consensus, il y a des gens qui s'expriment contre, ça pose un problème et ça inquiète ceux qui essayent de cristalliser ce rassemblement.
C'est aussi ça veut dire quoi pour vous, Sylvain Cannes? Il faut distinguer ce qui est fait sous le coup de l'émotion, oui, qui peuvent être des réactions qui peuvent excessives, et ce qui est fait ensuite avec davantage de recul et qui pose davantage de problèmes par rapport à la liberté d'expression.
Oui, oui. Alors, je ne sais pas si ça a été fait de manière excessive, mais en tous les cas, je pense que c'était très, très politique. Alors, à tort ou à raison, hein, on peut être d'accord ou pas d'accord, mais moi, mon analyse, c'est que ce qui a été fait dans les jours et les semaines qui ont suivi les trois attentats contre Charlie Hebdo, contre l'hypercachère et contre deux policiers à Montrouge, c'était le pouvoir politique mettait en scène sa capacité à fédérer la nation, et donc, comme très souvent, en tout cas depuis que les États-nations existent ou depuis la démocratie de masse, c'est pour ça que je parlais de la Révolution française, évidemment, on désigne, des éventuels moutons noirs dès qu'on entend quelqu'un qui ne pense pas comme il faut. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que tout ce que vous avez rappelé sur le discours de Valls, ou y compris sur le discours de Najat Vallaud-Belkacem, etc., moi, ça me fait penser à une chose, ça me fait penser à des législations ou à des pratiques ou à des réglementations que les démocraties mettent en place quand elles font la guerre. Et donc, le fait qu'on nous rabatte, on nous rabatte les oreilles sur le fait que nous sommes en guerre, ce à quoi moi je ne crois pas du tout, c'est pas parce qu'il y a des attentats terroristes qu'on est en guerre, faut quand même raison garder, eh bien, favorise de condamner, par exemple, des opinions publiques au motif qu'on est en guerre. Vous voyez, dans le pouvoir politique actuel, il y a cette idée que... Enfin, pour moi, il y a un truc logique qui est que c'est parce qu'on est en guerre que, du coup, un certain nombre d'opinions peuvent être considérées comme des délits d'opinion qu'il faut interdire parce qu'on est en guerre.
Philippe Manière.
Non, là, ce que Sylvain est en train d'évoquer est très intéressant et je partage assez largement son opinion, mais on est déjà dans notre deuxième sujet. C'est-à-dire, moi, je pense qu'il faut quand même revenir au premier parce que, pardon, je pense qu'on s'est un peu égaré. Je prends ma part du fardeau. La liberté d'expression, ça ne se partage pas dans une conception qui est, je crois, celle que je crois comprendre être la conception française. Alors, on peut discuter parce que c'est pas exactement la conception américaine, etc. Mais enfin, précisément, souvent les Américains ont une vision encore plus extensive, exhaustive de la liberté d'expression. Sur ce sujet du blasphème, c'est le contraire. C'est nous qui avons la conception de la liberté d'expression la plus absolue, et à mon avis, à juste titre. Et c'est pour ça que moi, je me désolidarise vraiment de ce que disait ou suggérait, pardon, Ludivine Bottigny tout à l'heure. Je crois que quoi qu'on pense de ce que peuvent ressentir ceux qui voient les caricatures quand leur foi est concernée, ça ne se négocie pas. Les catholiques, les juifs, les musulmans en ont pris dans Charlie, chacun pour son grade. La subtilité, si je puis dire, elle est quand même pas non plus insurmontable et inaccessible au plus grand nombre. La subtilité de la règle de la liberté d'expression, c'est que j'admets, au nom de mon respect des valeurs de mon pays, que mes opinions puissent être blessées par l'expression des opinions d'un tiers. Et donc, Donc, quand quelqu'un vous dit « c'est pas bien de dire ça parce que ça a blessé beaucoup de gens », ça ne doit même pas être écouté, c'est non pertinent. On a le droit de dire des choses qui blessent. Et c'est ce qu'a Charlie a toujours fait, et aucune des autres religions mises en cause n'a jamais contesté le droit de Charlie. Bien sûr, ils ont piaillé, mais jamais on a vu quelqu'un. Alors j'ajoute qu'il y a une deuxième dimension qui est la tolérance élémentaire. C'est-à-dire qu'on n'attente pas à l'intégrité physique de quelqu'un qui exprime une opinion qui vous déplaît. Donc je pense que sur tous ces sujets-là, on peut pas négocier.
Alors, bon, comme je suis prise à partie, je voudrais quand même revenir sur, en effet, l'essentiel élémentaire.
J'ai dit que je me prenais moi-même à partie.
Mais que, évidemment, que ce qui ne se négocie pas, c'est le droit à la liberté d'expression et, a fortiori, le droit à la vie de journalistes, de caricaturistes, de personnel d'un journal, parce qu'ils ont été également les victimes de cette tuerie. En revanche, il n'est pas exact de dire que le blasphème n'est pas puni par la législation française. D'une part, le blasphème existe toujours en raison du concordat en Alsace et en Moselle. Ouais. Voilà, ça c'est une chose. Mais d'autre part, il y a une forme de blasphème républicain, hein, on va dire, qui est puni par la loi, depuis notamment la loi de 2003 sur la sécurité intérieure et qui porte sur l'outrage au drapeau et à l'hymne national. Il y a des condamnations, il y a encore un Algérien il y a quelques temps qui a été un ressortissant algérien qui a été condamné parce qu'il avait brisé la hampe d'un drapeau français. Donc voilà, je pense qu'il faut revenir sur ce genre de choses. Je pense pas que le débat puisse porter ici trop sur Charlie Hebdo, hein. Je pense qu'il y a quand même une différence entre s'en prendre au pape et s'en prendre à une population comme musulmane.
La caricature du prophète, c'est exactement comme s'en prendre au pape, pas s'en prendre aux musulmans.
Non, la petite différence, c'est que dans Charlie Hebdo, les unes systématiques s'en prennent aux musulmans, parce qu'on a beaucoup parlé en effet des caricatures de Mahomet, mais on a beaucoup moins parlé de cette manière sans cesse de stigmatiser des musulmans, et je pourrais vous en citer bien des exemples, mais je pense que c'est pas seulement des musulmans.
Est-ce qu'en tout cas, je voudrais pas qu'on fasse toute l'émission non plus sur les caricatures de Charlie Hebdo, sujet évidemment important, mais qui nous renvoie déjà à un passé pas si lointain, certes, mais enfin qui fait quand même partie du passé. Philippe Manière, est-ce que, en tout cas, vous diriez, pour qu'on progresse un petit peu dans la discussion, comme le disait finalement aussi Sylvain Kahn, qu'il y a peut-être un climat politique aujourd'hui qui contribue, alors soit d'un côté à faire en sorte que certains limitent leur expression, soit à ce qu'on voit des atteintes par exemple ou de l'apologie du terrorisme dans des choses qui n'étaient pas considérées comme telles auparavant.
Oui, je pense que s'il y a 3 ans Jean-Marc Royan avait dit la même chose que ce pourquoi on le poursuit aujourd'hui, il n'aurait sans doute pas été poursuivi. Je pense même pas que quiconque aurait remarqué.
Donc alors, il y a un climat. Ce que vous évoquez Jean-Marc Royan, on n'a pas encore
citer,
parlé.
Vous avez raison.
Je vais le citer. Donc Jean-Marc Royan, faut rappeler d'abord qui c'était le fondateur d'Action Directe, qui a été condamné pour meurtre, qui était terroriste, qui était en liberté conditionnelle au moment où il a eu ses propos dans le mensuel marseillais Leur Avis, en parlant des terroristes du 13 novembre. Je les ai trouvés très courageux, ils se sont battus très courageusement. Et donc, il a été condamné à 8 mois de prison pour apologie du terrorisme.
Moi, j'ai une conception personnelle qui me semble cadrée avec le projet. Si ce n'est la lettre exacte aujourd'hui de la loi française, le projet émancipateur français, Sylvain évoquait tout à l'heure la révolution, née de la révolution et qui depuis a été précisé et renforcé. Ma vision, c'est que on doit pouvoir dire ce qu'on veut. Ou à peu près. Et quand je dis le ou à peu près, c'est vraiment par précaution, parce qu'il y a certainement des cas où on peut plaider qu'on ne doit pas, mais à mon avis, il faut qu'il soit le plus rare possible. Et dire une bêtise, c'est autorisé par la loi. Et dire que quelqu'un est courageux, même si ce courage l'amène à faire quelque chose de meurtrier et de condamnable, et évidemment je le condamne, je ne suis d'ailleurs même pas sûr que Rouillant ne prenait pas un tout petit peu ses distances si on regarde le texte dans son ensemble. Je veux pas aller trop loin, on peut en tout cas tout à fait dire que ce sont des gens courageux qui font des horreurs et qu'on désapprouve leur acte. Mais enfin, si par exemple je vous parle des kamikazes pendant la Seconde Guerre mondiale, vous me direz que c'est un état de guerre, on revient à ce qu'évoquait Sylvain tout à l'heure, un kamikaze causait un tort très considérable à l'ennemi en utilisant une arme complètement inédite, c'est-à-dire le suicide suicide meurtrier, c'est sûr que ça requiert un certain courage. Le 11 septembre, les types qui se précipitent dans les tours, ce qui nous a sidérés, c'était ça. Et il faut reconnaître que dans l'augmentation de la menace et de la perception de la menace, le fait que ceux qui commettent des attentats soient prêts à mourir renforce à la fois notre inquiétude, la sidération dans laquelle on est et l'efficacité. Donc, nier le fait qu'il y a un changement et que ce changement tient au fait que les gens sont prêts à mourir, ce qui tout de même n'est pas le cas de chacun d'entre nous, ça n'est pas une folie, me semble-t-il, intellectuellement, et condamner l'expression de cette opinion me semble déraisonnable.
Alors, la condamnation, elle est actée s'agissant de Jean-Marc Rouillon, qui, je rappelle, était en liberté conditionnelle. Donc, ce qui faisait aussi qu'il était dans une situation un peu particulière par rapport évidemment à celle d'Éric Zemmour aujourd'hui. Pour l'instant, il y a simplement une enquête. On verra bien s'il est véritablement poursuivi pour apologie du terrorisme, pour les propos que j'évoquais en tout début de cette émission. Et si jamais il est poursuivi, s'il est condamné. Mais est-ce que vous êtes d'accord, et Sylvain Kahn et Ludivine Bontigny, pour dire, en gros, on n'est pas obligé d'abord d'être d'accord, de partager le point de vue comme quoi ces terroristes-là ont fait preuve de courage, mais on a le droit de dire des bêtises. En tout cas, le fait de dire des bêtises ne doit pas être passible d'une condamnation pénale, Sylvain Kahn.
Ben, je dirais, ça dépend, enfin c'est toujours pareil, ça dépend de quelle bêtise ou jusqu'où va la bêtise, où est-ce qu'on place le curseur.
Alors est-ce que la bêtise de... Enfin je ne sais pas si vous considérez d'ailleurs que c'est une bêtise qu'a dit Jean-Marc Rouillon ou ce qu'a dit Éric Zemmour.
En tout cas, moi je ne suis pas d'accord. Enfin, c'est-à-dire, je ne suis pas d'accord... En fait, je crois sur deux plans, parce que franchement, jusqu'à présent, je ne m'étais pas posé la question, quoi. Hein, vous voyez ce que je veux dire ? Je ne me lève pas tous les matins en me disant, tiens, est-ce que dire ça ou ça sur les terroristes ? À la limite, je pense que c'est bien aussi de ne pas trop penser aux terroristes, vous voyez ? Alors bon, bah, Jean-Marc Rouillon, évidemment, il est interrogé là-dessus, il dit un truc. Mais le fait qu'à un moment donné, je ne connais pas le cas, si vous voulez, il y a une espèce de focalisation, ça monte en mayonnaise, la justice s'en mêle... Si vous voulez, bon, j'élargis un tout petit peu, ou je me décale, quoi. Mais moi, il y a un truc je pourrais presque dire qui me gonfle, si vous me passez l'expression, c'est que on en parle trop. Il ne s'agit pas de ne pas en parler du tout, mais et je pense que là, d'une certaine manière, c'est déjà quelque chose de gagné pour les terroristes. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que dès que quelqu'un d'un tout petit peu connu dit quelque chose sur le terrorisme, dès qu'il y a un acte terroriste, n'importe où dans le monde, surtout s'il est perpétré par un groupe ou un groupuscule djihadiste ou islamiste, on en parle dans la presse française, j'ai pas regardé ailleurs en Europe.
Mais c'est quand même normal qu'on en parle.
Je dis pas que c'est anormal, Hervé Gardette, bien sûr que c'est normal d'en parler, mais... comment dire, pour moi, il y a un peu un trop-plein. Évidemment, quand l'attentat arrive en France, c'est normal que dans les médias français, on en parle énormément.
Oui, mais là, Sylvain Kahn, le problème, et c'est l'objet de notre émission, c'est pas seulement d'ailleurs le fait qu'on en parle, parce que ça, on pourrait se demander est-ce qu'on parle trop, finalement, des actes terroristes. Mais
moi,
là, c'est sur la mauvaise manière d'en parler, en tout cas, qui est considérée comme une mauvaise manière bon, et alors, qui conduit certains
à
se retrouver devant la justice.
Je réponds à votre question. Donc, effectivement, moi, personnellement, à titre personnel, en tant que citoyen et qu'intellectuel, dire ou penser même que des terroristes sont courageux, moi, ça me passerait pas par l'esprit. Bon, voilà, comme ça, je réponds à votre question. Deuxièmement, faut-il condamner quelqu'un qui dit ça ? Alors là, ce que je trouve très intéressant, avant l'émission, j'ai été un peu regardé, ce qu'on pouvait tirer comme enseignement ou comme élément de réponse possible à votre questionnement, du côté de la Cour européenne des droits de l'homme et du côté de la Cour de justice de l'Union européenne. Parce qu'après tout, on dit législation française, mais la législation française, elle est d'une manière ou d'une autre, selon les secteurs sur lesquels elle travaille, elle est, on va dire, en lien très étroit avec les deux législations européennes. Bien. Alors, pour autant que j'ai compris, je suis pas juriste, mais je suis plutôt spécialiste de l'UE, moi j'ai retenu deux choses. Je fais un mix, encore une fois, CEDH, CJUE. Bon, d'une part, les cours en question ont déjà rendu des arrêts indiquant que quand il s'agit d'un individu qui parle dans un contexte entre guillemets à un individu, là c'est sûr à chaque fois la condamnation pour apologie du terrorisme est cassée. Le problème devient délicat quand la personne en question a fait ce que nous on appelle rapidement l'apologie du terrorisme dans un cadre collectif, dans une manif par exemple ou à la radio. Ok, je vais vite.
Oui, parce et que là, je suis en train de faire signe à Sylvain Kahn.
Oui, voilà, bien sûr. Et là, pour autant que j'ai compris, les cours en question ont déjà cassé des décisions rendues par les justices des États membres en fonction de la situation. Genre par exemple, s'agissant d'un ressortissant turc en Turquie. Il avait prononcé des paroles qui ont été jugées comme de l'apologie du terrorisme par l'État turc. Vous me direz, l'État turc, c'est quand même pas un parangon de respect des droits de l'homme. Et ça a été cassé parce que la CEDH a considéré que dans le contexte de cette manifestation-là, de toute façon, ça n'avait aucune portée. Voilà. Donc, les deux cours nous appellent, appellent les justices nationales à dire, c'est pas uniquement des grands principes, ça dépend du contexte, de l'espace et du temps. Voilà.
Ludivine Mantini, sur les cas Jean-Marc Rouillant et Éric Zemmour, qui disent pas exactement la même chose, pas exactement de la même manière, mais enfin, en tout cas, les propos sont assez proches sur la façon de dire. Donc, il y avait du courage chez ces gens qui ont commis les attentats du 13 novembre. Est-ce que c'est quelque chose qui, vous aussi, en tant qu'intellectuel, vous a choqué? Et si c'est le cas, est-ce que pour autant, quelque chose qui mérite, selon vous, que l'on puisse être condamné en justice, sachant que l'apologie du terrorisme, c'est quelque chose qui existe dans la loi française depuis de très nombreuses années. Dans tous les pays européens. Sauf qu'il y a eu un changement important, je le précise avant de vous laisser la parole, Ludivine Mantini, en 2014. C'est que ça relevait avant de la loi sur la liberté de la presse de 1881 et que depuis la loi sur le terrorisme en 2014, ça relève désormais du code pénal et que ça consiste, je dis ce que c'est que l'apologie du terrorisme, à présenter ou commenter favorablement des actes terroristes déjà commis. Donc par rapport à cette définition-là, on peut se dire, oui, il y avait bien apologie du terrorisme dans les deux cas qu'on évoque.
Alors, ces condamnations me choquent, pour répondre d'abord à votre question, et je voudrais quand même revenir sur le cas de Jean-Marc Rouillant, parce que j'aimerais beaucoup que dans le cadre de cette émission, on ne contribue pas à tronquer à tel point ces propos qu'ils en deviennent non seulement caricaturés, mais absolument métamorphosés. C'est-à-dire que Jean-Marc Rouillant, dans cette interview, a dit clairement qu'il condamnait ces massacres, ces tueries, qu'il considérait les individus qui les ont perpétrés comme des ennemis réactionnaires. Voilà. Donc il a condamné ces attentats.
Et simplement, c'est exactement ce que fait Éric Zemmour.
Il a expliqué...
Non mais essayons de traiter les deux cas en même temps, parce que j'ai l'impression que la liberté d'expression, elle peut aussi avoir...
Pas du tout.
Mais elle peut être aussi à géométrie variable. Non, je ne dis pas ça par rapport à vous, Ludivine Mantini, mais selon la personne qui profère ces propos.
Je veux bien aussi évoquer... Éric Zemmour, et pour l'instant, je voulais quand même rappeler au sujet de Jean-Marc Rouillant qu'il a été condamné donc à 8 mois de prison ferme. C'est quelqu'un qui a déjà été détenu pendant 24 ans, dans un régime qui a été considéré comme un traitement inhumain par le Syndicat National de la Magistrature.
Oui, mais là on sort un peu du sujet.
Non, pas du tout, parce que c'est aussi précisément parce que c'est Jean-Marc Rouillant qui a tenu ses propos qu'il a été condamné, je pense, à 8 mois de prison ferme pour avoir dit que... Alors même qu'il condamnait ces attentats, les individus qui les ont commis ont été courageux face aux policiers. Et moi, je rejoins complètement Philippe Manière sur le fait que c'est une banalité que de dire. Il y a eu un certain courage, mais ça ne veut absolument pas dire qu'on fait de l'apologie de ces attentats.
Alors, je voudrais vraiment que vous me répondiez sur Éric Zemmour, parce que j'ai l'impression que chacun est un petit peu en train d'éviter le personnage, parce que le personnage sulfureux. Est-ce que c'est aussi parce que c'est Éric Zemmour, à votre avis, que ses propos là provoque une telle réaction, c'est-à-dire qu'on le menace d'apologie du terrorisme parce qu'il a tenu des propos qui paraissent a priori quand même assez inoffensifs.
C'est vrai qu'il faut rappeler qu'Éric Zemmour a déjà été condamné pour incitation à la haine à l'égard des musulmans.
Oui. Là, donc c'est vrai ça l'explique, mais pas pour Jean-Marc Rouillant, c'est ça que
j'arrive
pas à comprendre.
Non, pas du tout, ça ne l'explique pas. Moi, je vous ai répondu clairement aussi bien sur le cas Rouillant que sur le cas Zemmour, même si je me refuse à les mettre sur le même plan, parce qu'ils n'ont pas du tout la même pensée politique, la même culture politique, mais quoi qu'il en soit, je vous l'ai dit, ces condamnations sont pour moi absolument inacceptables, et au-delà, je reviendrai sur ce qui a été dit tout à l'heure par Sylvain Kahn sur faire corps, quand le pouvoir politique veut que la nation fasse corps et se représente comme en guerre, après les attentats du 13 novembre, il y a eu trois réactions, c'est d'une part de dire que la nation était en guerre et qu'il fallait intervenir militairement en Syrie, donc voilà, et que ceux qui condamnaient cette intervention étaient considérés comme des complices du djihadisme. Il y a eu aussi une manifestation interdite, celle du 29 novembre, donc d'emblée au nom de l'état d'urgence, troisième mesure qui a été mise en place immédiatement, et l'état d'urgence, ça a été d'emblée une manière de réduire la liberté d'expression. Moi, je pense qu'il faut quand même souligner que justement, nous sommes en guerre, il faut faire corps autour de la nation, cette liberté d'expression, du côté de personnalités politiques d'influence. Je pense par exemple, on a parlé de Manuel Valls, mais on pourrait aussi citer François Fillon, qui a dit récemment à propos de la discipline historique, de l'histoire, qu'elle ne devait pas servir à réfléchir. Donc c'est pour ça que moi je pense qu'il n'y a pas seulement des délits d'opinion, il y a de plus en plus des délits de réflexion qui sont pointés du doigt.
Philippe Manière.
Non, je crois que le cas Zemmour est assez semblable, je suis d'accord avec le Divine là-dessus, au cas Kouarouyan. Alors, si vous voulez, on est dans le pays du d'où parles-tu, camarade. Donc on dit, c'est d'autant plus grave que lui dise ça parce qu'il a été condamné ou parce qu'il a déjà fait ceci ou cela. Ça me paraît, moi, absolument non conforme à l'idée que je me fais de la liberté. C'est-à-dire qu'on peut porter le jugement qu'on veut sur Zemmour et sur Rouillant, et Dieu sait qu'il y a d'excellentes raisons de condamner moralement l'un et l'autre. Il y en a même qui ont été condamnés, l'un et l'autre ont été condamnés pénalement, comme vous le disiez très justement, pas du tout pour les mêmes choses évidemment. Ça n'a rien à voir avec le jugement qu'on doit porter dans chaque occurrence sur telle ou telle déclaration. Et ce que dit Zemmour est assez cousin de ce que disait Rouillant. C'est-à-dire qu'il dit on ne peut pas ne pas saluer le sacrifice en quoi consiste le fait de mourir pour sa cause. Et il va même jusqu'à dire que le fait que nous ne soyons plus prêts nous met en situation de faiblesse. Là encore, je pense que ça ressortit au constat d'évidence. Est-ce qu'on peut considérer que c'est de l'apologie du terrorisme ? Je ne crois pas. Moi, je crois que ça fait partie de la liberté d'expression. Je ne dis pas que je partage les opinions de Zemmour, pas du tout. Je dis simplement qu'en exprimant cette opinion, il ne me semble rien faire d'autre que son boulot, ce pourquoi on le considère comme étant pertinent dans l'espace public. Alors, vous me direz qu'il considère, c'est des réseaux qui sont là pour faire de l'audience. Peu importe. Il a une audience, il a le droit de parler, on a le droit de parler dans ce pays, y compris encore une fois pour dire des bêtises, et en l'occurrence je ne suis même pas sûr qu'on puisse dire que c'est une bêtise ou l'apologie du terrorisme, parce que ça consiste, exactement comme disait Ludivine, à constater une forme d'évidence. Alors après, on voit bien quelle récupération peut en faire l'ennemi, entre guillemets. Mais n'oublions pas la récupération que l'ennemi peut faire de nos condamnations. N'oublions pas qu'un ressort fondamental de cette espèce de macération qui caractérise l'extrême droite comme l'extrême gauche, l'islamisme politique militant et meurtrier, comme tous les autres extrémismes, c'est la paranoïa. Ces gens-là ne cessent de dire, et ils le pensent très sincèrement, qu'ils n'ont pas voix au chapitre, qu'on les piétine, qu'on ne les écoute pas, qu'ils sont humiliés. Qu'ils aient raison ou qu'ils aient tort est une autre question. Je pense qu'ils ont principalement tort, mais ça c'est mon opinion. J'ai juste le droit de l'exprimer, je vous demande pas d'y adhérer. Je dis simplement que si vous alimentez cette machine à penser qu'on est maltraité en condamnant les gens qui disent des choses relativement banales qui vont dans l'autre sens que le sens dominant, vous alimentez la machine à tuer. Donc soyons prudents quand on dit il faut condamner parce que sinon ça donne un signal. Oui, mais condamner ça donne aussi un signal qui est à mon avis au moins aussi dangereux potentiellement.
Mais en même temps, quand on est dans un contexte de guerre contre le... de guerre contre le terrorisme. Je ne sais pas si on m'entend là, parce que je n'ai pas vraiment de retour. Si, bon, alors tout va bien. Sylvain Kahn, est-ce qu'il n'y a pas aussi la nécessité de mettre un curseur par rapport à ce qui peut être dit et ce qui ne peut pas l'être ? C'est-à-dire, c'est aussi au nom de la liberté d'expression. On pourrait imaginer que certains discours prosélytes et qui incitent à rejoindre les rangs du djihad sont prononcés. Il faut bien aussi trouver les moyens de lutter contre des expressions qui sont des expressions qui peuvent s'avérer dangereuses. C'est là toute la complexité aussi.
Il me semble, Hervé, qu'il y a une nuance, certes fine, mais entre l'apologie du terrorisme, enfin juridiquement, je vous avais dit tout à l'heure en un mot de quoi il s'agissait, et d'autre part, la propagande et l'appel à rejoindre les rangs.
Donc, voilà. Oui, il y a l'apologie du terrorisme qui revient sur des actes qui ont déjà été commis, voilà. Et il y a la provocation au terrorisme qui incite à commettre des actes, ce qui est effectivement n'est pas du tout la même chose. Dans le premier cas, on est dans le commentaire.
C'est ça.
Dans le deuxième cas, on est dans l'incitation.
Mais en tous les cas, moi, j'ai quand même je crois qu'il y a d'avoir un désaccord avec mes deux camarades, donc Ludivine et Philippe, parce que si j'ai bien compris, vous avez redit courage. Oui, on peut. Enfin, moi, ce qui me gêne le plus, je vais vous dire, dans les propos de Zemmour et de Rouillant, c'est que je suis pas du tout d'accord avec le fait que c'est courageux. À la limite, qu'on dise que c'est intrépide. D'accord ? Que les actes en question soient intrépides ou téméraires. Bon, pourquoi pas, je veux dire, mais courageux...
C'est ce qu'a dit Jean-Marc Rouillant, d'ailleurs, au moment de son procès. Il a dit « j'aurais dû utiliser le terme intrépide
». Déterminé, il a dit.
Je ne sais pas.
Mais, oh, pardonnez-moi, alors, c'est déterminé.
Courageux, sauf erreur de ma part, dans la langue française, c'est une vertu.
Est-ce que ça mérite 8 mois de prison ferme ?
Non, c'est la grande question.
Mais surtout, vous êtes en train d'exprimer une opinion, Sylvain, parfaitement respectable. Vous trouvez qu'ils ne sont pas courageux. Puis il y a des gens qui trouvent qu'ils sont courageux.
Ou qui ont été courageux.
Que je m'adresse, c'est entre nous si j'ose dire, ou si, en espérant que ça intéresse aussi Hervé et les auditeurs. Pour moi, bien entendu, La condamnation de Jean-Marc Rouillant à 8 mois de prison ferme me paraît complètement déterminée par le fait qu'il est en conditionnel et par le fait que l'État français continue à vouloir le casser parce qu'il a été un terroriste d'extrême gauche sur le sol français. Il y a pas de... Et donc, moi, ça ne me paraît pas justifié, que les choses soient claires. Bon, Zemmour, ça ne me paraît pas non plus justifié. Pour l'instant, Zemmour, il n'est pas condamné encore.
Voilà. Mais le seul fait qu'il y ait des poursuites peut poser question.
Voilà. Peut poser question, voilà. Mais pour moi, Zemmour, évidemment, c'est un battleur de foire, c'est un provocateur. En disant que les terroristes djihadistes sont courageux, il prend tout le monde à contre-pied pour se faire mousser, parce que c'est tellement contraire à ce qu'il a dit jusqu'à présent. Bon, voilà, c'est tout. Donc,
c'est pas sûr, ça. Moi, bien sûr, il a un métier. C'est le côté battleur est absolument incontestable.
Voilà. J'imagine que son dernier bouquin se vend moins bien que le précédent.
La thèse de Zemmour qui court depuis longtemps avec plein d'incarnations, c'est quand même qu'on est faible. C'est la disparition de la virilité, c'est la faiblesse de l'Occident, c'est le fait qu'on ne sait pas répondre à nos ennemis. Et donc, ça n'est qu'une illustration de quelque chose qui, je crois, correspond sincèrement à ses convictions. Encore une fois, on n'est pas du tout obligé de les partager. C'est pas mon cas. Mais l'idée que tout ça est une manifestation supplémentaire, que nous sommes en état de faiblesse parce que nous ne sommes pas aussi courageux que nos ennemis, c'est quelque chose qui s'inscrit assez bien dans la doxa Zemmour au fil du temps.
Zemmour,
on fait de l'entomologie, là, c'est pas très... c'est pas seulement pour avoir de l'audience qui fait ça. Je pense qu'il le pense. Ce qui, d'ailleurs, m'amène à penser que, comme toutes les autres opinions, la sienne doit être respectée, quoi qu'on en pense sur le fond.
Est-ce que vous diriez les uns et les autres que ce qui se manifeste donc aujourd'hui sur le plan judiciaire à travers alors de plus en plus notamment de condamnations pour apologie du terrorisme, quelques chiffres, alors on a ceux de 2015 et de ceux de 2014, pas ceux encore de 2016. En 2014, 10 condamnations pour apologie du terrorisme, en 2015 385 condamnations, ce qui est considérablement plus important. On peut quand même imaginer que c'est pas parce qu'il y a plus d'apologie, mais c'est parce qu'il y a plus de condamnations. Est-ce que vous y voyez une forme de crispation conjoncturelle liée à cette question de la lutte contre le terrorisme, ou bien un phénomène qui est un phénomène peut-être un peu plus de fond, qui consiste petit à petit à grignoter des espaces de la liberté d'expression?
C'est l'État. C'est-à-dire l'État, et en particulier l'État en France, pas que en France, mais en particulier en France, quand l'État se met en branle sur un sujet, avec une nouvelle loi, des directives, etc., l'État, si j'ose dire, il y a la dynamique de l'État, quoi. Il suffit de lire Michel Foucault, ou même simplement de se rappeler du Code Napoléon. C'est l'État. Une fois que l'État a un nouveau pouvoir, il le met en œuvre, quoi.
Oui, et contrairement à ce qu'on dit souvent à propos du néolibéralisme, là où l'État serait en retrait, on peut constater au contraire que l'État, dans tous les domaines, finalement, renforce sa puissance. On le voit également autour de l'espace public, autour des débats sur la laïcité, qui est une autre manière d'exprimer ou d'évoquer le droit, la liberté d'expression. C'est quand Manuel Valls nous dit que son combat principal, son grand combat, c'est le voile, c'est aussi une manière d'attenter à la liberté de s'exprimer par le vêtement. Et je pense que c'est au sommet de l'État, il y a un durcissement assez autoritaire qu'on a vu aussi au moment de toutes les manifestations du printemps et encore de ce début d'automne. Un durcissement qui est à la fois policier et qui est aussi judiciaire.
Si je vous posais la question du mouvement de fond, c'était aussi pour aller un peu plus loin en arrière, avec notamment la loi Guesso qui avait à l'époque beaucoup fait débattre, Philippe Magnard.
Oui, alors quand même,
la négation de crime contre l'humanité.
Sur le sujet qu'on vient d'évoquer, il y a certainement un durcissement de l'État. Je suis d'accord avec Ludivine et Sylvain sur ce sujet. Il y a probablement aussi une augmentation du nombre d'occurrences, parce que ce sujet du terrorisme est évidemment bien plus dans les conversations, dans les échanges et dans l'espace public qu'il l'était avant les attentats. Ça va de soi. Donc c'est toujours pareil. Vous savez, c'est vrai que si vous ouvrez une gendarmerie, vous avez plus de statistiques de vols parce que les gendarmes arrêtent les voleurs un peu plus qu'avant et que donc ça laisse des traces. Mais ça n'empêche pas que parfois il y a objectivement plus de voleurs, même quand on ouvre une gendarmerie, c'est souvent à cause de ça. Donc les deux doivent se combiner. Alors maintenant, quant à la loi Guesso et aux autres, la tradition française, c'est quand même d'encadrer la liberté d'expression. D'ailleurs, c'est prévu par la Constitution, dans la loi, d'une manière qui est ouverte au début et puis qui finit par être assez fermée. C'est-à-dire que de plus en plus, il y a des sujets sur lesquels on n'a pas le droit d'exprimer une opinion déviante par rapport à ce qui est considéré comme étant la vérité. Et généralement, d'ailleurs, qui est l'est. Je vous rassure, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas la vérité. Je ne suis pas là encore non plus très à l'aise avec ça, moi, à titre personnel, parce que je pense que ça crée encore des martyrs. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent « Regardez, la preuve que ce que je dis est vrai, c'est que je n'ai pas le droit de le dire ». C'est évidemment très court intellectuellement. Mais c'est assez convaincant, en particulier dans le type de population dont on peut penser que ces mouvements-là essayent d'y recruter. Donc, voilà, j'observe que la France a une vision un peu restrictive de la liberté. Il y a des cas où on peut comprendre. Le plus souvent, c'est bien intentionné, naturellement. Mais je pense que ça a des inconvénients, et en principe, et sur le plan opérationnel.
Elle ne s'en rend peut-être pas toujours compte. Merci en tout cas beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Philippe Manière, Ludivine Bantigny et Sylvain Kahn. Discussion que vous pourrez retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page du Grain à Moudre. Un grand merci à toute l'équipe du Grain, Cyril Baer, Céline Leclerc, Fanny Richer, Mathilde Barbier, Isolde Sicard. Émission réalisée par Jean-Christophe Francis avec à la prise de son Joël Le Guéhennec. Je vous retrouve lundi à 18h20 pour poser la question suivante. Y a-t-il des zones de non-droit ? Nous essaierons de comprendre ce que veut dire cette expression assez énigmatique.